Vous écoutez, on lit pour vous.
Résister à Trump, que l'on continue. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 7 mai 2025 dans La Presse. Nous sommes en 2025 et tous les pays du monde subissent, sans trop rouspéter, les assauts de Donald Trump. Tous? Non. Un pays peuplé d'irréductibles Canadiens résiste. Il faut s'en féliciter et continuer. C'est grosso modo le message qui a été transmis mardi par 5 responsables d'Amnesty International venus d'Europe et des Amériques qui étaient de passage à la presse. À commencer par la secrétaire générale de l'organisation, la Française Agnès Callamard. Le Canada a été l'un des rares pays dans le monde à s'être ouvertement manifesté et à avoir résisté face aux brimades et aux attaques de cette nouvelle administration, y compris sur son intégrité territoriale, a-t-elle déclaré. « Je suis vraiment à la recherche d'exemples dans le monde entier de résistance de l'État, pas seulement de la résistance de la population. » Nous voulons voir les dirigeants s'élever, résister à l'effet Donald Trump, mais aussi considérer ses tendances et racines plus profondes. C'est la raison pour laquelle elle s'est déplacée au Canada dans la foulée des récentes élections fédérales avec certains de ses collègues, dont le directeur de l'Organisation pour les États-Unis, Paul O'Brien, ainsi que la directrice d'Amnesty au Mexique, Edith Olivares. Nous voulons encourager le premier ministre qui vient d'être élu à persister dans sa résistance, a ajouté Agnès Callamard. La délégation, qui incluait aussi la directrice d'Amnesty Canada francophone, France-Isabelle Langlois, et la directrice Amérique Amnesty International, Anna Piquet-Romo, a rencontré lundi à Ottawa des représentants du gouvernement de Mark Carney. Les responsables d'Amnesty International saluent, entre autres, le fait que le Canada a clairement dénoncé l'imposition de droits de douane de manière unilatérale de la part de Washington, tout comme la façon dont le premier ministre s'est fermement opposé à l'idée de faire de notre pays le 51e État des États-Unis. Le gouvernement a également suscité chez les Canadiens un sentiment de fierté et d'engagement à l'égard des valeurs canadiennes, souligne Agnès Callamard. C'est excellent, et trop peu l'ont fait. Je pense que le Canada est peut-être le seul qui a réussi à faire tout ça à la fois. N'a-t-on pas également vu des signes de résistance au Trumpisme de la part des gouvernements européens? Oui. On l'a constaté dans le cas de multiples attaques lancées contre l'Ukraine et son président, Volodymyr Zelensky. La résistance a, par exemple, pris la forme d'investissements massifs en défense par plusieurs gouvernements, a souligné la secrétaire générale d'Amnesty International. Mais ça n'a pas été accompagné d'un cri de ralliement sur ce contre quoi nous sommes censés défendre l'Europe, a-t-elle déploré. Car il ne s'agit pas seulement de défendre l'Europe contre la Russie ou les États-Unis. Il doit s'agir de défendre une certaine vision de la société fondée sur la protection des droits de l'homme et sur la liberté individuelle et collective. Amnesty International vient de publier son rapport annuel sur l'état du monde. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que le portrait qu'elle y brosse est plutôt sombre. On y affirme que l'humanité se trouve à un tournant de son histoire alors que des forces d'une ampleur sans précédent veulent en finir avec l'idéal des droits humains pour tous et toutes. On le constate chaque année un peu plus, l'ordre international fondé sur des règles est en péril. Nous sommes dans un système qui a été fondé après 1945, sur les cendres de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. Ce à quoi nous faisons face à l'heure actuelle, qui est absolument précipité et accélérée par Donald Trump, c'est la destruction de ce système, a résumé Agnès Callamard en entrevue. Mais il n'y a pas que le président américain qui le menace. Et l'actuel secrétaire général d'Amnesty International, qui était, il y a quelques années, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires et qui a notamment enquêté sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par un commando saoudien, en sait quelque chose. Le droit international et les règlements fondés sur la loi se sont effrités petit à petit, rappelle Madame Callamard, en particulier depuis l'agression russe en Ukraine et ce que nous considérons être le génocide israélien à Gaza. Désormais, le Conseil de sécurité ne joue plus son rôle et l'administration américaine cherche à nuire aux institutions internationales multilatérales qui fonctionnent encore, comme la Cour pénale internationale, CPI, dénonce Amnesty International, qui estime que le gouvernement canadien doit les défendre. Comment? En insistant pour que ces institutions soient respectées et protégées, a expliqué Paul O'Brien. Il a un intérêt direct et il est depuis longtemps un leader qui veille à ce que ces institutions fassent réellement leur travail. Il a ainsi rappelé que le Canada a été le premier pays à incorporer les obligations du Statut de Rome, le traité à la source de la CPI, dans sa législation nationale. Le Canada peut être le leader qui va protéger les droits de la personne, l'état de droit et les institutions internationales. Il a la crédibilité pour le faire. Il doit être prêt à le faire, a affirmé France-Isabelle Langlois. Cela dit, l'un des défis du gouvernement Carney sera de répondre aux doléances de nombreux Canadiens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la résistance, reconnaît Agnès Callamard. Les sondages nous montrent que les jeunes hommes, en particulier, ont un intérêt pour l'agenda anti-droit, a-t-elle expliqué. Nous invitons le nouveau gouvernement à se pencher sur cette question, mais à ne pas tomber dans le même piège que trop de dirigeants européens, qui est de normaliser le langage de l'extrême droite afin d'en minimiser l'impact électoral. Ça ne marche pas. Ça ne fait qu'empoisonner toute la société. Car le Canada n'est pas immunisé contre le trumpisme et les dérives autoritaires. Il est utile de se le rappeler pour mieux y résister. C'était Résister à Trump, que l'on continue, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 7 mai 2025 dans la presse.
Ouverture envers l'homosexualité. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 avril 2025 dans la presse. Le pape François a redoublé d'efforts pour éviter les manchettes concernant la morale sexuelle de l'Église. Mais, au sujet de l'homosexualité, il a fait de nombreuses déclarations généralement bien reçues, mais pas toujours. Qui suis-je pour juger? Si une personne est gay et cherche le Seigneur, fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? À peine élu, dans l'avion qui le ramenait du Brésil, François a fondamentalement redéfini l'attitude de l'Église face à l'homosexualité, à tout le moins celle du pape. Quand je pense à François, je pense à cette phrase. Explique Carl O'Byrne, très impliqué dans la pastorale avec la communauté LGBTQ+, à Toronto. Il veut nous écouter. La phrase du pape était directement tirée de l'épître aux Romains de saint Paul. « Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? » Quand il a été élu, François avait déclaré qu'il était le pape du bout du monde. Son souci pour les populations négligées, notamment les migrants, lui a valu le surnom de « pape des périphéries ». Une consultation internationale sur les périphéries, lancée par François, a entendu les besoins de la communauté LGBTQ+, note M. Auburn. Bénédiction d'union. En 2023, François a lancé une autre salve, un document « Fiducia supplicans », permettant la bénédiction des couples en situation irrégulière et de même sexe. Fiducia a été écrit par la Congrégation pour la doctrine de la foi, CDF, héritière de l'Inquisition qui, jusqu'à récemment, traquait les théologiens de gauche. Christian Tanguay, directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, se souvient. Je n'aurais jamais pensé qu'un pape irait si loin dans la reconnaissance de la communauté LGBTQ+. Pour les croyants dans notre communauté, c'était un geste inespéré. Des discussions sur Fiducia, organisées par M. Auburn à Toronto, ont attiré de nombreux couples. La paroisse Saint-Pierre-Apôtre, dans le quartier gay de Montréal, a retranscrit Fiducia dans le feuillet paroissial. Le pape François a eu le courage de dire que toute personne peut être bénie, explique le prêtre Aublat, Marc Dessureau, de Saint-Pierre-Apôtre. C'est un changement majeur. Face à une montée de boucliers en Afrique, le Vatican a précisé que la bénédiction doit viser les personnes et non le couple. Quand un couple demande une bénédiction, je bénis les deux personnes, ainsi que leurs projets, dit le père Dessureau. On peut se demander si Fiducia n'a pas braqué les évêques africains et diminué leur collaboration dans la lutte contre la criminalisation de l'homosexualité, dit, par contre, Thomas Rees, un jésuite qui enseigne à l'Université de Santa Clara, en Californie. L'ancien élève. Quand François a visité les États-Unis pour la première fois en 2015, il a rencontré un de ses étudiants des années 1960, Yayo Gracie. Monsieur Gracie, qui l'avait contacté par l'entremise du Vatican, est venu avec son conjoint de longue date. Nous l'avions vu à Rome en 2013 aussi, et il avait rencontré mon conjoint. Par la suite, il me demandait toujours des nouvelles de lui. Il savait que nous étions en couple, même si nous n'en avions jamais parlé. La rencontre était providentielle du point de vue des relations publiques parce que durant ce même voyage, François avait aussi rencontré une fonctionnaire du Kentucky qui avait refusé de faire des mariages homosexuels, une bourde qui avait été attribuée à l'équipe responsable de son voyage américain. M. Gracie, qui avait émigré aux États-Unis pour fuir le régime militaire des années 1970, avait perdu de vue son ancien professeur, Jorge Mario Bergoglio, jusqu'en 2010, quand l'Argentine envisageait une loi sur les unions civiles homosexuelles. Des journaux avaient publié des articles sur l'opposition de Bergoglio à la loi. J'étais allé le voir à l'archevêché pour lui demander pourquoi il était contre. Il m'avait dit que ce n'était pas vrai. Et il m'avait dit qu'il avait toujours apprécié mon honnêteté. Il m'avait dit « Qui suis-je pour te juger ?» C'est vraiment une conviction profonde pour lui. Péché et crime. Début 2023, François a condamné les pays criminalisant l'homosexualité lors d'une entrevue en espagnol. Il faut distinguer entre péché et crime, a-t-il précisé, invitant les évêques, appuyant ses lois, à avoir un processus de conversion. Ce commentaire a réussi à braquer la droite et la gauche. La conférence épiscopale américaine a dû demander une clarification à François par l'intermédiaire du magazine jésuite America. François a précisé que tout acte à l'extérieur du mariage est un péché et qu'il était aussi péché de manquer de charité envers autrui. Le pape François, en entrevue avec la Civiltà Cattolica, août 2013, affirmait « Une personne m'a déjà demandé, de manière provocante, si j'approuvais l'homosexualité. J'ai répondu avec une autre question. Dites-moi, quand Dieu regarde une personne homosexuelle, est-ce qu'il approuve l'existence de cette personne avec amour ou la rejette et la condamne? Nous devons toujours considérer la personne. » Frosi Gianni. Lors d'une conversation privée avec des évêques italiens, François a utilisé le terme « frossiagine » pour dénoncer des comportements dans certains séminaires italiens. En italien, cette expression est une insulte évoquant des attitudes homosexuelles. Au nom du pape François, un porte-parole s'est excusé auprès de ceux qui ont été offensés, mais un mois plus tard, le pape a parlé d'un excès de « frossiagine » au Vatican durant une rencontre avec des prêtres à l'Université pontificale salésienne. En riposte, un char du défilé de la fierté romaine à l'été 2024 faisait référence à cette insulte. C'était « Ouverture envers l'homosexualité », un texte de Mathieu Perrault paru le 21 avril 2025 dans La Presse.
L'impact des infrasons et des ultrasons. Un texte de Mathieu Perrault paru le 4 mai 2025 dans La Presse. Un lecteur nous a demandé si les bruits à haute ou basse fréquence inaudibles pour l'humain étaient nocifs. Les ultrasons ne semblent pas nocifs, mais les infrasons, eux, sont associés à des troubles psychologiques et cardiovasculaires. On ignore toutefois s'il s'agit d'impact des sons sur la santé directement ou de l'impact du dérangement qu'ils provoquent. Les infrasons commencent à 20 Hz, soit à très basse fréquence, tandis que les ultrasons se trouve à l'autre bout du spectre, à plus de 20 000 Hz. À titre de comparaison, une discothèque émet des basses dans la région des 200 Hz et une ambulance ira jusqu'à 2 000 Hz. L'une des difficultés des études sur les ultrasons et les infrasons est qu'ils nécessitent des appareils de recherche plus dispendieux que les appareils cliniques, qui coûtent des milliers de dollars plutôt que des centaines de dollars. Les appareils cliniques examinent généralement les fréquences entre 250 et 8000 Hz. Richard Netzel, hygiéniste environnemental de l'Université du Michigan, nous dit « La question des infrasons a été étudiée à cause des éoliennes. » C'était la première fois de l'histoire que l'humain était exposé de manière significative à des infrasons. Pour ce qui est des ultrasons, l'exposition est rare et difficile à différencier d'autres fréquences de bruit. Les ultrasons, ou les sons aigus à la limite du perceptible, sont seulement fréquents dans les cabinets de dentistes, dans certains milieux industriels et dans des eaux abritant des dauphins ou des chauves-souris. Il y a eu quelques études sur les cabinets de dentistes et rien n'a été observé comme impact sur la santé, explique le professeur Richard Netzel. Notre capacité à détecter des infrasons, elle, découle de la nécessité d'entendre les pas de prédateurs approchant lentement la nuit, selon M. Netzel. Ce dernier dirige une vaste étude lancée en 2019 pour mesurer le bruit ambiant à partir d'oreillettes d'Apple. L'Apple Hearing Study regroupe plus de 160 000 Américains de 50 États. Avant les éoliennes, moins de 1 % ou même moins de 0,1 % de nos expositions au bruit concernaient des infrasons ou les sons à fréquence très basse. Les bruits des éoliennes ont été beaucoup étudiés par les organismes de santé publique. Elles génèrent des fréquences très basses par leur mouvement dans l'air qu'on appelle bruit aérodynamique. Anxiété. Il semble y avoir, avec les sons à fréquence très basse, une augmentation du risque de dépression, d'anxiété et de palpitations cardiaques avec la proximité de turbines, explique Richard Netzel. Mais c'est difficile de séparer l'impact physique de l'impact psychologique. Les variations de luminosité liées aux pales, par exemple, créent de l'anxiété. Le problème des infrasons et qu'ils sont difficiles à bloquer parce qu'ils ont une longueur d'onde plus grande et donc peuvent traverser les obstacles contre lesquels les longueurs d'onde plus courtes se heurtent. On le sait quand on vit près d'une discothèque, d'une voie ferrée ou d'une route où passent beaucoup de camions. Ou quand on est arrêté à un feu rouge près d'une voiture dans laquelle joue de la musique avec beaucoup de basse. Par contre, les infrasons ne semble pas endommager les cils de l'oreille interne qui transmettent le bruit au nerf auditif comme les autres types de bruits forts. Les cils responsables de la perception des fréquences hautes sont près de l'ouverture de l'oreille interne, alors ils sont endommagés les premiers. Les fréquences plus basses doivent aller plus loin dans l'oreille interne, alors elles perdent de la puissance et font moins de dommages. En savoir plus. 200 mètres, distance à partir de laquelle les bruits mécaniques des éoliennes sont inaudibles. Source, Institut national de santé publique du Québec. 45 décibels, bruit aérodynamique d'une éolienne à 200 mètres de distance. Ils sont de 35 décibels à 500 mètres de distance et de 27 décibels à 1 km de distance. Source, KC Group, Journal of Environmental Health Science and Engineering. De 40 à 50 décibels. Bruit d'un réfrigérateur. Source, Département de l'énergie des États-Unis. C'était « L'impact des infrasons et des ultrasons », un texte de Mathieu Perrault paru le 4 mai 2025 dans la presse.
La proportion de consommateurs de cannabis diminue au Québec, surtout chez les jeunes. Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 9 avril 2025 dans Le Devoir. La proportion de consommateurs de cannabis a diminué au Québec, plus particulièrement chez les plus jeunes, indique la plus récente enquête québécoise sur le cannabis. La grande majorité, 81 % des personnes qui consomment du cannabis le fument, environ le tiers en ont consommé dans un produit alimentaire et 21 % ont utilisé des gouttes orales. Un consommateur sur quatre le vapote. On observe toutefois une diminution du vapotage de cannabis chez les 15 à 20 ans, une première pour ce groupe d'âge. Plus précisément, la proportion de jeunes de 15 à 20 ans ayant vapoté du cannabis au cours de la dernière année est passée de 62 % à 57 % en un an. L'enquête québécoise sur le cannabis a été menée entre janvier et juin 2024 auprès d'environ 15 200 personnes âgées de 15 ans et plus. Les données des éditions de 2021 et 2022 et celles de 2023 et 2024 ont été combinées pour relever de petits changements dans l'évolution de certains phénomènes, écrit l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, dans son rapport publié mercredi. On note entre autres que la proportion moyenne des personnes consommant du cannabis est passée de 20 % à 18 % entre ces deux périodes. Lorsqu'on regarde par groupe d'âge, les jeunes de 18 à 20 ans sont passés d'un ratio de consommateurs de 33 % en 2021-2022 à 28 % en 2023-2024. Un écart semblable est observé pour les jeunes de 21 à 24 ans. Ils sont passés d'une proportion d'environ 42 % à 36 % pour les mêmes périodes. Une baisse considérable du taux de personnes consommant du cannabis a aussi été constatée auprès des 25-34 ans. Ils étaient 36,5 % à consommer du cannabis en 2021-2022, alors qu'ils sont approximativement 32 % en 2023-2024. D'autre part, les données montrent qu'environ 17 % des personnes ayant consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête en ont pris sur une base quotidienne. La majorité des Québécois qui consomment continuent toutefois de le faire assez rarement, 42 % évaluent leur consommation à moins d'un jour par mois. Autre fait saillant du rapport de l'ISQ, le quart des consommateurs n'ont aucune idée du contenu en cannabinoïdes, les plus connus étant le THC et le CBD, dont les produits qu'ils inhalent ou ingèrent. Près de la moitié des consommateurs disent prendre exclusivement du THC ou plus de THC que de CBD. Selon Santé Canada, le THC est un cannabinoïde qui provoque une intoxication, un high, et souvent un effet d'euphorie. Certains effets nocifs y sont aussi associés, notamment par rapport à la santé mentale. La teneur en THC du cannabis séché est passée en moyenne de 3 % dans les années 1980 à environ 15 % aujourd'hui. Le CBD est un autre cannabinoïde, mais contrairement au THC, il ne produit pas un high. Environ 15 % des consommateurs québécois choisissent du cannabis qui a exclusivement du CBD ou plus de CBD que de THC. Environ 69 % des Québécois se procurent leurs produits à la Société québécoise du cannabis, SQDC, une donnée similaire aux enquêtes précédentes. C'était « La proportion de consommateurs de cannabis diminue au Québec, surtout chez les jeunes », un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne paru le 9 avril 2025 dans Le Devoir.